Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Xavier Niel. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. C'est rare de vous entendre. Vous êtes le milliardaire peut-être le plus cash de France, à la fois anti-système, vous avez été pirate informatique, agent de la DST, ça on le découvre à la lecture de votre livre. Ça s'appelle « Une sacrée envie de foutre le bordel ». Vous avez évidemment commencé avec le Minitel Rose, vous êtes passé par la case prison. Vous avez fondé ensuite Iliad, c'est l'aventure free, puis la presse, les start-up. En fait, j'aimerais bien savoir pourquoi vous parlez. Pourquoi vous avez envie de raconter tout ça? Pourquoi vous avez accepté mon invitation?
Parce que je vous remercie de votre invitation. Non, je crois que, l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est... Déjà, il y a l'origine de ce livre. L'origine de ce livre, c'est un copain qui me dit « Écoute, on se voit régulièrement, on se parle, est-ce qu'on ne peut pas enregistrer ces conversations et essayer ensuite de les transformer en livre ?» Et puis une éditrice qui dit, il s'appelle Jean-Louis Missica, puis une éditrice qui dit « Bah avec ça, en fait, votre truc, il est incroyable. » Donc, c'est les éditeurs, ils sont toujours un peu flatteurs, il faut se méfier d'eux. Mais en fait, l'envie, c'était de se dire... c'était de pousser les jeunes ou les gens d'une manière générale à se prendre en charge et à se dire on peut faire quelque chose. On est dans un monde ou dans une société où on a l'envie, ou pardon, pas l'envie, on a l'habitude de dépendre des politiques. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, tout un chacun, personnellement, peut se prendre en charge et créer des choses, créer des entreprises, créer des assos, devenir entrepreneur. Et c'est ça le fort message, quel que soit son passé, quel que soit son passif, et le mien est lourd, on peut créer des choses, on peut faire des choses et faire avancer la société.
Et d'ailleurs, vous allez en parler dans un instant des politiques, parce qu'on se demande finalement si vous avez fait avec ou contre eux, et si aujourd'hui, dans cette situation dans laquelle est la France, on peut encore s'en sortir, et qu'est-ce que la France peut faire pour les entrepreneurs? Vous promettez de répondre à cette question, comment devenir milliardaire? Quand on a envie d'être milliardaire aujourd'hui, quand on est jeune, est-ce que vous leur dites restez en France ou barrez-vous?
Alors moi, on est entouré de gens qui ont un doctorat en pessimisme. Moi, j'ai exactement l'inverse. Je pense que ce pays, il est incroyable. C'est le pays le plus fantastique pour entreprendre, créer des choses, quoi que ce soit. Et donc, je leur dis surtout restez parce que ça va être plus facile ici qu'ailleurs. Donc, bien évidemment, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense exactement l'inverse. Donc, je leur dis restez. Ce pays, il est fantastique. Il est incroyable. Vive la France. C'est un pays incroyable. Moi, ça m'a permis de venir de Créteil, de partir de rien et d'avoir la chance d'être devant vous ce matin.
Et vous racontez effectivement dans ce livre où est-ce que vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi. Vous dites d'ailleurs avoir eu une enfance très heureuse, très harmonieuse. Et vous êtes construit ensuite. Mais cette France aujourd'hui, elle est à genoux. On nous dit justement qu'il faut trouver 20 milliards par an pour espérer sortir la tête de l'eau. Vous vous lancez ce défi aux Français. Vous leur dites même... il faut avoir envie de gagner, il faut avoir envie de gagner de l'argent, il faut avoir envie de devenir milliardaire. Mais est-ce que c'est pas plutôt à la France que vous devriez donner des conseils pour devenir milliardaire?
Je pense que dire devenir milliardaire, c'est provocateur et ça
vous êtes beaucoup dans la provoque, hein,
c'est vrai, d'accord. Non, l'idée, c'est de se dire arrêtez de regarder ces sujets politiques. Ces sujets politiques, c'est pas le sujet de fond. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'on fait, nous. Moi, je pense que chaque individu dans ce pays peut plus changer ce pays que le regroupement de la totalité des hommes politiques de ce pays. Si vous prenez des gens qui n'étaient pas français, qui ont créé Uber, Airbnb, quand on se lance dans la téléphonie mobile, qu'on rend des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, c'est un instant de raison des groupes d'entrepreneurs qui ont créé des choses qui ont eu plus d'impact sur nos vies que les politiques. Voilà. Donc, c'est pas de dire que les politiques servent à rien. Ils fixent une règle. Mais après, c'est à chacun d'entre nous d'utiliser ces règles et d'essayer de créer des choses avec.
On va revenir sur la question de l'innovation, sur l'aventure du Minitel qui, à vos yeux, est d'ailleurs presque à l'image, parfois, du gâchis français. Mais bien sûr, cette phrase prononcée par Michel Barnier il y a quelques jours, il faut faire un effort collectif pour maîtriser les dépenses. Ça peut se faire notamment avec des prélèvements ciblés sur les personnes fortunées. Ça tombe bien, j'en ai une en face de moi. Ou sur certaines grosses entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut que vous passiez à la caisse?
Alors moi, je n'appelle jamais à augmenter mes impôts. Je ne suis pas masochiste, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que on parle d'abord de taxer les plus aisés, les plus riches. À la fin, on taxe tout le monde. Je pense que ça, les Français l'ont très très bien compris. C'est-à-dire qu'il y a un symbole, on taxe le symbole, c'est très bien, fantastique. Et puis après, on va taxer tout le monde. Donc c'est systématiquement comme ça. Le problème, c'est que l'impôt, c'est une forme de collecte de vous savez, c'est comme litchi. Tout le monde met de l'argent dans un pot commun, une cagnotte, mais on ne sait pas ce qu'on en fait après. Et moi, ce que je pense, c'est, ok, donc il y a la cagnotte, après elle est gérée par des gens, on ne sait pas trop comment ça marche. C'est un peu opaque. Et de l'autre côté, ce que je dis, moi, quand on a de l'argent, on doit s'en saisir et l'utiliser pour avoir des initiatives qui, elles, ont un impact. C'est juste ce que j'ai souvent fait dans ma vie en créant des écoles, des incubateurs, un certain nombre de choses gratuites où j'utilise mon argent afin d'aider les autres. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un usage de mon argent qui me paraît plus productif qu'aller payer de l'impôt en ne sachant pas trop comment il est dépensé. C'est c'est pas cet impôt qui est un problème, c'est son usage. C'est-à-dire qu'il est, je ne suis pas sûr qu'il soit utilisé de manière efficace.
Vous avez le sentiment d'être plus efficace, vous. On va revenir d'ailleurs sur votre école. Ça s'appelle, il y a évidemment l'école 42 où vous avez, et d'ailleurs c'est pas seulement en France, vous l'avez développé d'ailleurs dans le monde entier. Il y a qu'aux États-Unis, que vous vous êtes un peu cassé les dents. Parce que le gratuit aux États-Unis, ça passe pas du tout.
Quand une école est gratuite aux États-Unis, on estime que c'est une école pourrie. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous créez une école gratuite, les gens vous disent que c'est pourri. Donc on a fait une erreur, on aurait dû faire l'école la plus chère du monde et donner des bourses pour que ça devienne gratuit.
Mais sur ces impôts que Michel Barnier veut augmenter sur les riches, il y a la question de l'impôt sur le revenu, il y a la question éventuelle d'un retour de l'impôt sur la fortune, il y a aussi la question de l'impôt sur les sociétés, éventuellement mettre fin à la flat tax. Est-ce que sur tous ces points-là, vous vous dites, bon, pendant quelques années, s'il faut participer à l'effort national, je le ferai, ou est-ce que vous mettez en garde, comme le fait par exemple le patron du MEDEF, sur le fait que ça pourrait couper aussi l'innovation, qui est quand même le moteur aussi, vous-même, de votre réussite?
Moi, je suis content d'être ici, je ne partirai pas. Donc, quel que soit là, je ne suis pas un déserteur. Donc, si vous voulez, quelle que soit la fiscalité, je resterai. C'est mon pays et je l'adore. Donc, je ne peux pas vous dire pendant 10 minutes, je l'adore et je veux dire, je vais me casser dès qu'on va m'augmenter mes impôts. Le problème, c'est que l'économie, pas l'État, mais l'économie va bien. Il y a 10 ans, je serais venu ici, vous m'auriez parlé du problème du chômage. Je ne parlais plus jamais à vous inviter au problème du chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces dernières années, on a eu un pays attractif qui a amené de l'investissement, qui a poussé des gens à investir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre. Et donc, on doit garder cette image d'attractivité. Cette image d'attractivité, elle repose sur une stabilité d'un certain nombre de choses, notamment fiscales. Cette stabilité, elle a une valeur. Elle permet d'avoir des investissements, elle permet à des gens de venir du monde entier d'investir dans ce pays, elle permet à des gens qui sont riches dans d'autres pays de venir dans ce pays, de consommer, de dépenser, d'investir. Voilà, donc faut être capable de garder cette chose-là, cette image-là. Et quand on touche à ces paramètres-là, on prend un risque sur ces paramètres, sur cet investissement, et donc sur le chômage, sur la croissance, sur des choses comme ça.
Dans votre livre, vous le racontez, pour vous, la solution, c'est notamment l'emploi, bien s'entourer. Et vous dites qu'il faut s'entourer de collaborateurs débrouillards. C'est la première qualité et c'est ce qui est le moteur de tout. Ouais. Débrouillard, ça veut dire quoi?
Ça veut dire street smart, ça veut dire des gens qui savent faire des choses concrètes. Je dis toujours, quand vous construisez une maison, il faut mieux mettre les fondations avant le toit. Voilà. Donc parfois, et ça se trouve, ça vient pas des études qu'on a faites, c'est juste la manière dont on est constitué. C'est une forme de logique. Voilà. C'est ce qu'on essaye de trouver, ce qu'on essaie de chercher dans nos activités, ce qui nous a permis, ce qui permet d'innover.
Être débrouillard et être un peu pirate, vous racontez avoir été, et tout le monde le savait, emprisonné à la prison de la santé, au départ pour proxénétisme aggravé, recel d'abus de biens sociaux. Vous avez finalement été blanchi là-dessus, mais quand même condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. Et le juge Van Ruymbeek vous reçoit dans son bureau et il vous donne ce conseil: mordez la ligne jaune, mordez-la souvent, mais ne la franchissez jamais. Il faut donc être un peu pirate, mais pas trop.
Faut jouer avec les règles, ouais, mais faut pas les dépasser. Voilà, mais c'était une leçon incroyable pour moi. Mes proches me disent que j'ai un syndrome de Stockholm. Il m'a mis un mois en prison et après il me donne un conseil et je vous dis du bien de lui. Mais je pense que ça a été un conseil incroyable pour moi parce que je me sentais un surhomme, parce que je me sentais imbattable, parce que j'avais tout réussi dans ma vie.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est quand la dernière fois que vous avez mordu la ligne?
Il était en prison il y a longtemps.
Non, en prison, j'ai bien compris que c'était il y a longtemps, mais mordu la ligne jaune.
Tous les jours, on essaye de le faire. C'est le jeu, c'est d'essayer de se dire comment on peut jouer avec les règles pour créer des choses, comment on peut utiliser telle qu'est faite la société pour essayer de créer de la valeur. Et encore une fois, c'est pas obligatoirement commercial, ça peut être dans
mais
une association.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez les règles, les lois,
ça
vous regardez les failles.
Ça veut dire que quand on invente la free box, quand on invente la box, à partir de ce moment-là, normalement, il faut avoir légalement, ville par ville, une autorisation du maire. Sauf que dans la loi, il y a une petite virgule qui permet de l'éviter. On joue avec la législation d'une manière différente que le législateur l'avait pensé, et ça fait la boxe qui est dans tous les foyers français aujourd'hui. Voilà, donc c'est comment on joue en permanence avec ces règles en respectant la loi.
Alors il y en a certains qui ont franchi la ligne jaune. Fin août, il y a Pavel Durov, qui est ce sulfureux patron de Telegram, qui a été interpellé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Il arrive au commissariat, il a le droit de passer un coup de fil, et c'est vous qui l'appelle. Pourquoi?
Alors déjà, pour moi, il n'a pas encore franchi la ligne, parce qu'il n'a pas été condamné. Donc, excusez-moi, on va laisser.
En tout cas, il a au minimum mordu sur la ligne pour être arrêté.
Je ne sais pas s'il a mordu sur la ligne. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je sais, c'est que pour avoir été en prison, pour avoir eu des problèmes judiciaires, c'est que tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît dans ce cadre-là. Moi, quand j'ai un copain qui est dans la difficulté, qui me fait passer un coup de fil, voilà, je suis là. Sur le reste, il faut lui demander à lui la suite de cette histoire, parce que c'est sa vie et son histoire.
Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes en quelque sorte un peu... vous restez une sorte de parrain pour le hacking, pour le dark web? Vous avez même une forme de tendresse pour ça.
Vous avez 1 milliard d'utilisateurs pour Telegram dans le monde. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez un produit si sulfureux que ça, qu'il y ait eu des gens qui aient abusé d'un service parce qu'il permettait une confidentialité. C'est le jeu. Et je pense que vous retrouvez sur l'ensemble des autres messageries existantes qu'on peut utiliser sur WhatsApp et ailleurs des problèmes équivalents. Il avait visiblement un certain nombre de requêtes sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Voilà, ce que je ne sais pas juger. Encore une fois, je ne suis pas juge. Et donc, ça occasionne le fait qu'ils soient entendus.
Xavier Niel, ces noms, ils sont assez sulfureux. Il y en a un aussi qui fait beaucoup fantasmer en France, qui est le nom d'Elon Musk. Est-ce que vous considérez, vous, vu d'ici, qu'Elon Musk, c'est un génie? Ou est-ce que c'est un danger pour la démocratie? En ce moment, il joue énormément autour des élections et de la campagne américaine.
Je pense que vous avez deux Elon Musk. Vous avez Elon Musk entrepreneur, qui est probablement un ou le plus grand entrepreneur du monde. Et puis, vous avez Elon Musk qui a un sentiment de surpuissance ou de toute puissance et qui, sur la base de ça, peut parfois, comme tout être humain, dire des conneries.
La politique, vous n'avez pas envie de mettre le pied dedans?
Non, parce que je pense qu'on peut créer ou faire plus de choses en n'étant justement pas dans la politique. Non, n'ayant pas les barrières de la politique, l'obligation de faire de la démagogie, l'obligation que je mette un costume pour venir vous voir ce matin, l'obligation
de
dire des...
Je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous n'avez pas de veste, en effet, et que vous n'avez pas
de
cravate.
Pour vous faire plaisir.
C'est très gentil, très aimable et très respectueux. Xavier Niel, vous dites dans ce livre, tiens, récemment, il y a une ministre qui m'a insulté par SMS. Elle voulait que j'empêche la publication d'un papier à charge contre elle. C'est qui?
Je vais pas vous le dire.
Aurore Berger?
Je ne vais pas vous le dire, c'est pas le truc.
Marlène Schiappa?
Pourquoi?
Parce que je cherche quels ont été les papiers qui ont pu être à charge dans vos différents organes de presse. Alors, justement, vous dites, en fait, je ne pouvais de toute façon rien faire pour eux, pour elles, puisque je ne mets jamais les pieds dans une conférence de rédaction. Je rappelle que vous êtes actionnaire du journal Le Monde, de boîte de production, Media One. Xavier Niel, pourquoi vous achetez de la presse? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manquait? L'influence?
Il y a un moment où on arrête d'en acheter, parce qu'il suffit d'acheter un média et on l'a si vous le voyez comme ça. Non, j'ai si vous voulez, je sors un livre. Je peux vous promettre, je suis invité partout, sauf chez un certain nombre de médias qui appartiennent à des concurrents directs. Moi, ce que j'ai envie dans ce pays, c'est d'avoir une presse libre. J'ai subi...
C'est pour ça que vous êtes ici ce matin.
Je vous avais dit
que ce serait une liberté.
Je sais. Et ça l'a été justement dans ce média. Avant, c'était contrôlé par un concurrent à moi et j'ai jamais eu de problème chez BFM, en toute franchise. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu le sentiment que Patrick Drahi intervenait dans vos contenus. C'est faux, les gens qui vous disent ça. C'est faux. J'ai toujours continué d'être invité chez vous sans aucune forme de problème. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. C'est le jeu. Chacun gère ses médias comme il l'entend. C'est leur problème. C'est pas ma vision. Je me souviens d'avoir... Encore une fois, le jour où je pars en prison, il y a qu'un seul média qui fait l'ouverture du TF1 20h sur moi. Ben voilà, tous les autres n'en parlent pas. Ça leur paraît moins important. C'est le jeu. Il y a des gens
ça
qui contrôlent leurs médias.
Ça veut dire quoi? Ils étaient contents de dire que vous alliez en prison, peut-être?
Ça veut dire
vous voulez
dire
que l'actionnaire de TF1, peut-être, se réjouissait de vous savoir en prison?
Peut-être. Je sais pas, c'est vieux, il y a 20 ans.
Oh, mais en tout cas, ça veut dire que dans ce moment-là, l'information, au minimum à ce moment-là, elle n'était pas libre. Ou en tout cas, elle était en quelque sorte...
Bah si, parce que c'était une information juste.
Il y a quelqu'un qui tirait les ficelles pour en faire la une du journal.
C'était le jeu.
Xavier Niel, tiens, à propos de médias, Bernard Arnault a formellement interdit à ses salariés de parler à un certain nombre de médias qu'il considère être racoleurs. Dans la liste, il y a Mediapart, il y a La Lettre, il y a Le Canard Enchaîné, mais il y a aussi L'Informé, dont vous êtes, me semble-t-il, l'un des principaux actionnaires.
Petit actionnaire. Ouais.
Comment vous jugez ça, cette interdiction de parole aux médias?
Vous connaissez, moi je suis pour la liberté de la presse et donc je suis pour la liberté des journalistes. Je n'interviens jamais sur la ligne éditoriale de mes journaux. Je suis actionnaire de journaux de la gauche la plus extrême, qui est par exemple, le Monde diplomatique, et je suis actionnaire de journaux très très à droite. C'est le jeu, c'est pas ma vision, mais encore une fois, je peux pas être pour la liberté de chacun de dire ce qu'il veut. Voilà, c'est pas ma vision et c'est pas ce que moi je ferais.
En tout cas, les journalistes de l'Informé pourront continuer à aller au minimum tenter de titiller Bernard Arnault.
Je leur souhaite. Enfin, en tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, je n'ai aucun pouvoir éditorial. J'ai 5% à l'informer. Donc, je pense que je suis pas complètement sûr de la personne la plus à même d'être capable d'influer sur la ligne éditoriale du journal.
Sur l'innovation, Xavier Niel, la France, à travers le gâchis du Minitel, vous le racontez dans votre livre, vous dites, en général, les inventions géniales, on les met au panier. Donc, il y a une idée de génie. Il y a des investissements de fous et après, on a confié tout ça à l'administration et là, c'est parti en sucette. Est-ce qu'on a appris des erreurs du Minitel?
Non, mais je reviens sur mon thème. Si on aurait confié ça à des privés ou à des gens qui n'avaient pas une, qui n'avaient pas un grand plan étatique 150 ans en pensant que le monde ne bougeait pas, ben je pense qu'on aurait été peut-être en avance sur Internet, là où on a commencé un tout petit peu en retard.
L'intelligence artificielle, on a depuis peu une secrétaire d'État officiellement à l'intelligence artificielle.
C'est bien, c'est une bonne chose.
Est-ce que ça veut dire que c'est un bon signal? Est-ce que ça veut dire qu'enfin on s'en préoccupe? Mais attention, est-ce que ça va être pour le développer ou est-ce que ça va être pour le contrôler?
C'est toujours la même chose. Donc vous avez des lois qui existent en Europe, en France. Ces lois peuvent plus ou moins être restrictives. Vous avez encore une fois besoin de personnes. C'est la loi fixe un cadre. Et des gens doivent jouer avec ce cadre et être capables de créer des choses. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de modèles d'intelligence artificielle américains qui ne sont pas disponibles en France parce qu'on a des réglementations européennes qui sont complexes. Alors, il y a à la fois un jeu de leur part, c'est-à-dire une forme de chantage. On vient pas parce que vous comprenez, on n'a pas les bonnes règles, on veut un assouplissement de la loi. Et puis une réalité. Voilà. Mais encore une fois, on a des règles, jouons avec ces règles et créons des modèles d'intelligence artificielle.
On a plus de règles chez nous qu'aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis ont créé l'intelligence artificielle. Nous, c'est vrai qu'on a tendance davantage à la réguler. Est-ce que l'équilibre est à trouver entre les deux?
Je pense que c'est différent de ça. Je crois qu'on a les plus grands talents du monde, probablement les plus grands talents du monde en intelligence artificielle, viennent de nos grandes écoles.
Dont la vôtre, l'école 42.
Ouais, mais pas celle-là, notamment de Polytechnique. Excusez-moi, je vais vous dire
oui,
du bien de Polytechnique.
Finalement, vous finissez par dire du bien des grandes écoles, alors que pendant longtemps, vous faisiez le rebelle.
Non, mais on a le droit, attendez, on a le droit d'avoir déjà ses propres ambiguïtés. Mais à côté de ça, il faut reconnaître à chacun de nos écoles leurs talents. Et en termes de mathématiques dédiées à l'intelligence artificielle, on a deux ou trois écoles en France incroyables sur ces sujets-là. Voilà. Donc, on a des talents qui sortent de ces écoles. On a besoin de garder ces talents en France, qu'ils ne partent pas bosser en Asie ou qu'ils ne partent pas bosser aux États-Unis. C'est notre sujet et on se bat là-dessus.
Vous dites d'ailleurs, Xavier Niel, à l'instant, ce mot ambiguïté. On a le droit d'avoir ses propres ambiguïtés. Est-ce que vous êtes heureux?
Ah, incroyablement heureux. Alors, je suis né, vous le savez, à côté de Créteil. J'ai grandi dans une famille heureuse qui m'a poussé. Mais derrière, aujourd'hui, 50 ans plus tard, je fais ce que je veux de ma vie. Je me lève comme je veux. J'ai le plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Mais j'ai aucune forme d'obligation. J'ai un livre à vendre, mais je perçois même pas les recettes de ce livre. Je le fais parce que je suis content de venir parler, d'essayer d'aider des jeunes à faire des trucs. C'est ça qui me plaît. Donc j'ai une vie incroyablement heureuse. J'aurais du mal à me plaindre, franchement.
Une vie heureuse et la volonté de montrer, presque de vous prouver à vous-même que vous êtes encore un rebelle. Je dis ce mot-là, il y a deux mots.
Toujours,
il y a rebelle, il y a pirate. Et en même temps, vous n'arrêtez pas quand même de dire que vous êtes très proche des présidents. Je dis des présidents parce que Emmanuel Macron, qui se revendique être l'un de vos amis, François Hollande avant lui, c'est pas hyper rebelle, c'est un peu embourgeoisé quand même.
Mais je suis malheureusement un rebelle en bourgeoisie, c'est ça votre sujet. Le truc est là et j'ai le droit de tenter de lutter contre ça, c'est toujours la même chose. Non, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont été capables d'hacker le système. Quand vous preniez Sarkozy, que vous preniez Hollande, que vous preniez Macron, ils ont hacké le système. Ces gens-là n'auraient pas dû devenir président. C'est des hackers, c'est des pirates dans ma définition des hackers. Chacun à l'intérieur de leur parti, en créant quelque chose, chacun à leur niveau. Et je pense que c'est des exemples dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est pas un parcours normal. Ils n'auraient pas dû devenir président de la République. Donc je trouve ça fun. Ce qu'ils ont pu faire, c'est des hackers. Après, ce sont des hommes politiques avec leurs obligations et leur destin.
Qu'est-ce que vous ferez si Marine Le Pen est élue?
Si la France est mon pays, ça veut dire que la majorité des Français l'auront choisi. Moi, je suis respectueux de la démocratie de mon pays. Qu'est-ce que je ferais si Jean-Luc Mélenchon serait élu? C'est la même chose. Ça reste mon pays.
Vous mettez les deux, d'ailleurs, pour vous, c'est le même danger pour la France.
Ça reste des gens extrêmes, voilà. Est-ce que c'est le même danger? Je ne sais pas le juger aujourd'hui, il faut le voir à la pratique.
Vous les avez rencontrés, l'un et l'autre? Jamais?
Non, enfin, j'ai croisé Jean-Luc Mélenchon.
Ils auraient aimé vous rencontrer? Est-ce qu'ils ont tenté de vous rencontrer, Xavier Niel?
Je ne pense pas, mais encore une fois, vous avez toujours des gens pour vous dire qu'ils aimeraient vous rencontrer, mais vous voyez ce que je veux dire? Très indirect, et c'est des gens qui parfois veulent créer indirect.
Vous parlez beaucoup de la question de la diversité, notamment d'ailleurs à travers votre école, parce que vous demandez aucun diplôme pour rentrer à école 42, un concours très difficile, mais qui est un concours que chacun peut venir passer, qui est un concours d'ailleurs qui joue plus sur des algorithmes, sur des jeux,
pour être ouvert à tout le monde.
C'est en même temps extrêmement difficile de rentrer dans cette école.
Mais c'est ouvert à tout le monde, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je peux être décrocheur scolaire, avoir arrêté l'école à 12 ans et rentrer dans l'école et je peux avoir fait la plus grande des écoles et être recalé. Parce que ce qu'on va chercher, c'est autre chose. C'est est-ce que je suis logique, mon premier élément. Deuxième élément, est-ce que j'ai envie de réussir. C'est les deux seules choses. Et ces deux éléments-là ne sont pas liés à une formation.
Est-ce que ça veut dire aussi, Xavier Niel, que
si vous
pensez
sur la diversité,
qu'aujourd'hui, cette diversité est une chance pour la France?
Je pense que c'est...
Qu'il y a une harmonie possible.
Ce que j'ai envie de voir, c'est une France que la France de la rue corresponde à la France des gens qui font des choses. Aujourd'hui, il y a une forme de barrière intellectuelle chez les jeunes en disant j'ai pas fait une grande école, à partir de ce moment-là, je peux pas devenir entrepreneur, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Et ça, je pense que c'est une erreur.
Allez parler dans un certain nombre d'écoles et que au début les gens vous écoutent pas et quand vous dites je suis passé par la case prison, ils disent
j'essaie. Moi, j'ai envie de croire qu'ils m'écoutent à ce moment-là. Je le fais semblant, mais j'ai envie à ce moment-là d'avoir des jeunes en face de moi que j'arrive à réveiller et pas qu'on leur dise il y a un mec auquel on ne peut pas s'identifier. J'ai un mec qui a 57 ans devant moi, j'arrive pas à m'identifier à lui et il vient me dire dans ma ville de banlieue que je peux réussir, je suis pas crédible. Donc, faut que j'essaie de me dire quel est le truc où je vais essayer de les réveiller et que ça marche.
Merci d'être venu à ce micro très libre. Xavier Niel, une sacrée envie de foutre le bordel. C'est bien parce que s'il est dans une librairie, on est sûr de ne pas le manquer.
Il est
orange vif. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.